moissonneuse. Je vais essayer de bien articuler. Donc, c'est le premier chapitre donc, dont je vous parle, la révélation de la sagesse de Dieu. Donc, avec Père Bernard, nous venons d'entrer, grâce à l'introduction de l'encyclique Fides et Ratio, dans le cœur de ce texte qui est à la fois difficile et lumineux. Donc, Jean-Paul II, dans cette introduction, exprime sa conviction qui s'enracine dans l'histoire de l'humanité, que l'homme est en quête du sens profond de sa vie. Il rappelle que l'Église, en annonçant Jésus-Christ, qui est chemin, vérité et vie, répond à cette soif de l'homme en lui apportant le don de la vérité ultime sur sa vie. Pour autant, si son point de départ est la révélation chrétienne, il ne déprécie pas l'approche philosophique. Père Bernard vient de dire qu'il en avait même une grande estime. On sait qu'il a été professeur de philosophie. Donc il ne déprécie pas cette approche philosophique qui manifeste le désir d'absolu de l'homme et sa certitude d'être fait pour la vérité. Mais il pointe les carences de la philosophie contemporaine qui, trop souvent, ne croit plus possible l'accès de la raison à une vérité qui transcende l'homme et qui, ce faisant, est incapable de répondre à la soif d'absolu du cœur humain. L'intention de son encyclique apparaît alors clairement que philosophie et théologie, raison et foi s'interpénètrent, s'enrichissent mutuellement pour un vrai renouveau de l'une et de l'autre et ainsi pour que la soif de l'homme puisse être véritablement comblée. Et c'est vraiment à la lumière de cette intention que prend sens toute l'encyclique, et particulièrement donc ce premier chapitre dont je dois vous parler, la révélation de la sagesse de Dieu. Alors c'est un chapitre qui est relativement court, 9 numéros, donc les numéros 7 à 15, qui se scindent eux-mêmes en deux parties dont nous suivrons l'ordre. Alors vous avez les numéros 7 à 12, qui est « Jésus révèle le Père », et les numéros 13 à 15, la raison devant le mystère. Donc la première partie, Jésus révèle le Père, on peut dire que Jean-Paul II met davantage l'accent sur la révélation. Et dans la deuxième partie, eh bien, on voit déjà l'articulation entre la révélation et la philosophie, entre la foi et la raison. Donc première partie, les numéros 7 à 12, Jésus révèle le Père. Alors Jean-Paul II nous invite d'abord à accueillir la spécificité de la révélation chrétienne qui ne saurait se confondre avec l'approche philosophique. L'Église, dit-il, a conscience d'être dépositaire d'un message qui a son origine en Dieu même. Vous trouvez ça au numéro 7. Si la philosophie appréhende la vérité par la voie de la raison, la foi, elle, se caractérise par une rencontre. Ce n'est pas l'homme qui a l'initiative, comme dans la raison et dans l'approche philosophique, mais Dieu lui-même qui vient à la rencontre de l'homme. Jean-Paul II y insiste, car cette initiative divine manifeste déjà quelque chose du mystère divin. En tant que source d'amour, Dieu désire se faire connaître. Alors ensuite, de manière très synthétique, Jean-Paul II donne quelques repères pour situer l'articulation entre raison et foi dans la grande tradition de l'Église. Au long des siècles, le magistère a défendu l'idée d'une connaissance propre à la foi, précisément fondée sur la révélation de Dieu, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Cette connaissance ne s'oppose pas, bien au contraire, à la connaissance propre à la raison humaine, capable par nature d'arriver jusqu'au Créateur. Entre les deux ordres de vérité, et c'est vraiment ce que Jean-Paul II cherche à nous découvrir par cette encyclique, il y a distinction sans opposition. Et il s'appuie sur le Concile Vatican II, comme l'a bien mis en lumière le Concile Vatican I, comme l'a bien mis en lumière le Concile Vatican I, la philosophie évolue dans l'ordre de la raison naturelle, et la foi, dans la mesure où elle suppose la grâce, dans l'ordre surnaturel. Donc, après avoir rappelé cette distinction entre les deux ordres de connaissance, Jean-Paul II ensuite consacre les numéros 10 à 12 à l'inscription de la révélation dans l'histoire humaine pour en tirer des conséquences au plan philosophique. Ici, Jean-Paul II s'appuie sur la constitution du Concile Vatican II, Dei Verbum. Par la révélation chrétienne, alors là je vous cite Dei Verbum au numéro 2, que Jean-Paul II rappelle dans son encyclique. La vérité profonde sur l'homme, sur Dieu, aussi bien que sur le salut de l'homme, se met à briller pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. L'incarnation du Christ doit nous interpeller sur l'importance du temps. Et Jean-Paul II emploie le « je », j'éprouve le besoin de réaffirmer avec force que dans le christianisme, le temps a une importance fondamentale. Pourquoi une telle insistance sur le temps ? Car l'histoire humaine constitue précisément le cadre dans lequel se déploie la révélation chrétienne. Au numéro 11, Jean-Paul II nous dit « La vérité que Dieu a confiée à l'homme sur lui-même et sur sa vie s'inscrit dans le temps et dans l'histoire. » Et Jean-Paul II redit un peu plus loin « L'histoire devient le lieu où nous pouvons constater l'action de Dieu en faveur de l'humanité. » Précisément parce que Dieu nous rejoint dans le temps et dans l'histoire, dit Jean-Paul II, la révélation chrétienne est capable d'embrasser tous les hommes et tous les temps, elle est capable de parler à l'homme, quelle que soit sa culture, et d'interpeller sa raison. Relevons l'enthousiasme de Jean-Paul II pour parler de ce grand mystère. Donc, je vous dis ce que dit Jean-Paul II. L'Éternel entre dans le temps, le tout se cache dans le fragment, Dieu prend le visage de l'homme. Et soulignons enfin, en conclusion de ce premier développement, la conviction de Jean-Paul II, déjà évoquée dans l'introduction de l'encyclique, et que Jean-Paul II rappelle avec force, au numéro 12, « Par cette révélation est offerte à l'homme la vérité ultime sur sa vie et sur le destin de l'histoire. » Vous trouvez ça donc au numéro 12. Alors maintenant, j'en arrive au deuxième développement. Donc, la raison devant le mystère. C'est les numéros 13 à 15 de l'encyclique. Alors, le numéro 13 est sans doute le plus difficile et le plus dense de ce premier chapitre. Donc, après avoir, dans un premier temps, mis en valeur les deux ordres de connaissance et la spécificité de la foi chrétienne, Jean-Paul II s'attache à montrer que la foi, tout en étant distincte de l'approche philosophique en ce qu'elle est une réponse d'obéissance à Dieu, n'est contraire ni à la liberté ni à la raison. Au contraire, la foi les porte à leur plein accomplissement. Avec son autorité de pape, Jean-Paul II affirme avec force « Dans la foi, la liberté n'est donc pas seulement présente, elle est exigée, et c'est même la foi qui permet à chacun d'exprimer au mieux sa liberté. Autrement dit, la liberté ne se réalise pas dans les choix qui sont contre Dieu. » Donc, si la foi est au service de la liberté, elle est aussi au service de la raison. Les signes présents dans la révélation viennent aussi en aide à la raison qui cherche l'intelligence du mystère. Ils servent à effectuer plus profondément la recherche de la vérité et à permettre que l'esprit, de façon autonome, scrute l'intérieur même du mystère. L'adhésion à la révélation est donc un acte qui engage la raison, car il y a des signes de crédibilité qui accompagnent l'acte de foi. Le Dieu qui se fait connaître dans l'autorité de sa transcendance absolue apporte aussi des motifs pour la crédibilité de ce qu'il révèle. En fait, l'acte de foi nous ouvre à une vérité plus grande que nous et à laquelle on adhère, car on reconnaît avec notre raison qu'elle vient de Dieu. Et cette conviction de Jean-Paul II rejoint celle d'un certain nombre de philosophes chrétiens. Alors je vous donne l'exemple de Maurice Blondel, que Jean-Paul II apprécié particulièrement. Donc Maurice Blondel, qui a vécu entre 1861 et 1949. Et donc, il fait partie de ces philosophes, on peut dire, qui ont creusé l'interaction entre raison et foi, qui ont vu qu'il n'y avait pas d'opposition entre raison et foi, mais complémentarité. Et ils ont vu que cette interaction était féconde, qu'elle permettait vraiment à la raison d'être pleinement elle-même et à la foi d'être, de se servir de la raison pour être davantage comprise. Par la foi, la raison s'ouvre à ce qui la dépasse et simultanément les réponses apportées par la foi éclairent les contradictions de la raison close sur elle-même. Et Maurice Blondel montre que la philosophie se heurte dans sa recherche à des murs qui justifient son ouverture à la révélation chrétienne. Alors il prend plusieurs exemples, peut-être le plus frappant, c'est la question du mal. Donc sur le plan purement philosophique, sur le plan de la raison seule, on voit bien qu'on ne peut pas arriver à des réponses satisfaisantes. Mais si la philosophie s'ouvre au mystère de la rédemption, eh bien, ce mystère de la rédemption lui apporte une réponse lumineuse à cette question du mal. C'est vraiment la conviction profonde de Jean-Paul II. Tout en étant bien distincts, foi et raison sont donc appelés à s'enrichir mutuellement. Aussi Jean-Paul II invite-t-il, au-delà de la fausse opposition entre foi et raison, à découvrir que la révélation peut être un puissant stimulant pour la recherche philosophique. En découvrant quelque chose du mystère de Dieu et du mystère de l'homme, en faisant entrer dans notre histoire une vérité universelle et ultime, la révélation vient éclairer la raison et contribue à élargir le champ de sa réflexion au-delà des frontières de ce monde, sans qu'elle puisse pour autant prétendre à une pleine compréhension du mystère. Bon, si on reprend le mystère du mal, eh bien, le mystère du mal reste un mystère, même si la philosophie s'ouvre aux lumières de la foi. Entre l'abdication de la raison face à toute vérité transcendant ce monde, et on peut dire que ici Jean-Paul II vise la philosophie contemporaine qui malheureusement rejette facilement la métaphysique. Et puis, alors l'autre extrême, la prétention de la raison à coïncider avec la vérité absolue, comme dans la philosophie de Hegel qui disait que la religion n'était qu'une étape et que la raison par elle-même allait être capable de redécouvrir toutes les vérités contenues dans la révélation. Eh bien, Jean-Paul II ouvre une troisième fois et l'encourage avec conviction. En effet, en ouvrant à la transcendance, la révélation chrétienne ouvre par le fait même à la pleine vérité sur l'homme. La vérité de la révélation chrétienne que l'on trouve en Jésus de Nazareth permet à quiconque de recevoir le mystère de sa vie. Comme vérité suprême, tout en respectant l'autonomie de la créature et sa liberté, elle l'engage à s'ouvrir à la transcendance. Tout en affirmant cela, Jean-Paul II fait preuve de réalisme. Il sait que l'homme moderne, alors là je vous cite Jean-Paul II, avance parmi les conditionnements de la mentalité immanentiste. Alors la mentalité immanentiste, ça veut dire celle qui est enfermée dans ce monde, au lieu d'être reliée à Dieu, qui voit que la position horizontale de l'homme sans voir sa position verticale, le fait qu'il est relié à Dieu. Donc l'homme avance parmi les conditionnements de la mentalité immanentiste et les impasses d'une logique technocratique. Mais le réalisme de Jean-Paul II est optimiste. Si l'homme contemporain est réduit à sa dimension purement horizontale, Jean-Paul II a conscience et confiance que dans l'obscurité des temps que nous vivons, la révélation chrétienne est la vraie étoile sur laquelle s'oriente l'homme. Elle est l'ultime possibilité offerte par Dieu pour retrouver en plénitude le projet originel d'amour commencé à la création. Concluons avec les mots de Jean-Paul II. À la lumière de ces considérations, une première conclusion s'impose. Donc vous le trouvez en conclusion de ce premier chapitre au numéro 15. Jean-Paul II dit « La vérité que la révélation nous fait connaître » n'est pas le fruit mûr ou le point culminant d'une pensée élaborée par la raison, elle se présente au contraire avec la caractéristique de la gratuité, elle engendre une réflexion et elle demande à être accueillie comme expression d'amour. Quel souffle et quelle profondeur dans ces mots de Jean-Paul II. Donc au terme de ce chapitre, Jean-Paul II nous invite à découvrir la spécificité de la foi dans l'amour. Amour de Dieu qui se donne, amour de la créature qui est appelée à accueillir en retour ce don de Dieu. Et cet accueil qui implique l'obéissance de la foi, loin de s'opposer à la liberté et à la raison de l'homme, les porte à leur plein épanouissement, puisque Dieu est tout à la fois amour, liberté et vérité absolue, et que l'homme ne trouve son véritable bonheur qu'en imitant son Créateur.